Il existe des noms qu'on associe ensemble comme Roméo et Juliette, Jules César et Cléopâtre, Laurel et Hardy, Tom et Jerry, mais aussi Marie et Marthe dans l'Évangile où le prophète Jérémie et Baruch, son secrétaire particulier. Une fois, il a écrit les paroles du prophète sur un parchemin qui fut donné au roi Jéhoiakim, mais ce dernier le découpa en lanières et le jeta au feu. Quand Jérémie, alors, en prison, acheta une propriété dans sa ville natale, c'est Baruch qui se chargea de la transaction. Il était l'ami du prophète, son aide de camp, son bras droit et son homme à tout faire, ce qui veut dire qu'il partageait aussi le sort de son maître, et c'est ensemble qu'ils furent forcés d'immigrer en Égypte. Le chapitre 45, qui s'insère chronologiquement entre 36-8 et 36-9, consiste en une petite prophétie adressée à Baruch qui fut donnée la quatrième année du règne du roi de Juda, Jéhoiakim. Je commence à la lire. « Voici, Baruch, ce que je te déclare, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tu as dit, malheur à moi, car l'Éternel accumule les peines et les souffrances. Je suis épuisé à force de gémir et je ne trouve plus de repos. » Versets 2 et 3. En ami véritable, Baruch partage les souffrances de Jérémie et tout comme lui est perplexe face aux événements tragiques qui se préparent. Il fut plongé dans l'angoisse quand les projets d'avenir qu'il contemplait se sont écroulés et qu'en plus il était menacé de mort par le roi Jéhoiakim. Je finis ce tout petit chapitre. Tu lui diras donc ceci. Voici ce que déclare l'Éternel. Regarde, ce que j'avais bâti, je le détruis et ce que j'avais planté, je l'arrache. Il en est ainsi à travers tout le pays. Et toi, tu as pour toi-même des ambitions. N'y songe pas, car je fais venir le malheur sur tous les hommes. L'Éternel le déclare. Mais je t'accorde la vie sauve partout où tu iras. Versets 4 et 5. Dieu veut que ses serviteurs sachent que c'est lui qui a ordonné les malheurs de Juda et en même temps, il confirme à Baruch qu'en raison des événements tragiques qui s'annoncent, ses petites ambitions personnelles vont tomber à l'eau. Par contre, Dieu lui promet la vie sauve. Avec le chapitre 46 commence la dernière grande partie du livre de Jérémie qui se compose d'oracles contre les nations païennes. Il semble que dans un premier temps, ces prophéties circulaient indépendamment avant d'être insérées dans ce livre qui porte le nom de Jérémie. Ces oracles sur les nations païennes sont parallèles à des portions des livres d'Ésaïe et d'Ézéchiel. Il s'agit de 10 prophéties composées à différentes époques et qui concernent 9 peuples. C'est l'Égypte qui ouvre le bal et Babylone qui le clôt car ce sont les deux grandes puissances qui s'affrontaient au temps de Jérémie et qui pesaient lourdement sur les destinées d'Israël. Entre ces deux empires sont groupés les petits États d'Asie occidentale et tout d'abord les pays limitrophes de la Palestine. À l'ouest, les Philistins et les Phéniciens et à l'est, Moab, Ammon, Édom. Puis vient une seconde zone, Damas, Kédar et Hatsor, et enfin, dans l'Orient lointain, Élam, c'est-à-dire la Perse. Nous retrouvons ici les peuples que Jérémie a déjà mentionnés sommairement et à peu près dans le même ordre, avec l'Égypte en tête et Babylone à la fin. Après la chute de Jérusalem, les Israélites qui n'avaient pas été déportés ont commis la grave erreur de se rendre en Égypte, mais ils sont tombés de Charib en Silla. La guerre était terminée en Juda et ses villes en ruine auraient pu être reconstruites dans la paix. Dieu ayant ordonné que l'Égypte serait envahie par Nabucodonosor, il a dit aux Israélites rescapés par son prophète de ne pas s'y rendre car ils seraient tués ou déportés. Mais ils en ont fait à leur tête, comme d'habitude, croyant bien à tort qu'ils y seraient à l'abri de la guerre. Quand on désobéit à Dieu et qu'on ne modèle pas sa vie en fonction de ses préceptes, on abandonne la paix et la tranquillité et on va au-devant des difficultés et des souffrances. Je commence à lire le chapitre 46. Voici les paroles que l'Éternel adressa au prophète Jérémie au sujet des nations païennes, au sujet de l'Égypte et de l'armée du pharaon Nécho, roi d'Égypte, qui fut battu par Nabucodonosor, roi de Babylone, à Carchémish sur les bords de l'Euphrate. La quatrième année du règne de Jéhoiakim, fils de Josias, roi de Juda. Versets 1 et 2. Le pharaon Nécho, voyant les Babyloniens s'étendre sur l'Euphrate, voulu prendre l'offensive contre eux et soumettre en même temps toutes les nations entre l'Égypte et la Chaldée. Josias, roi de Juda, décida de lui barrer le passage de son pays et fut tué à Megiddo. Plus tard, Necho fut battu à plate couture par les Babyloniens à Carchemish, ville située sur l'Euphrate près de l'actuelle frontière entre la Syrie et la Turquie. Je continue. Aligner le petit et le grand bouclier et marcher au combat, harnacher les chevaux et monter sur les chars, à vos rangs, casque sur la tête, affûtez bien vos lances, endossez vos cuirasses. Versets 3 et 4. Les Égyptiens et leurs alliés, comme la plupart des peuples de l'Antiquité, se servaient de chars pour faire la guerre. Les fantassins avaient un petit bouclier rond et un grand bouclier carré qui couvrait tout le corps. Je continue en compressant. Mais qu'est-ce que je vois? Les voilà qui s'effondrent et battent en retraite. Et leurs guerriers sont pourfendus, ils fuient éperdument sans plus se retourner. De toutes parts, c'est la terreur. Mais c'est le jour pour l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, de régler tous ses comptes avec ses ennemis. L'épée dévore, elle se rassasie, s'enivre de leur sang, car c'est un sacrifice pour l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, dans le pays du Nord, sur les bords de l'Euphrate. Versets 5 et 10. Le prophète manifeste son étonnement, car malgré sa puissance militaire formidable, l'armée égyptienne est mise en déroute par les Babyloniens. Dieu se venge ainsi du mal que l'Égypte a fait à son peuple. Je continue plus loin. Voici la parole que l'Éternel adressa au prophète Jérémie pour annoncer que Nabucodonosor, roi de Babylone, viendrait infliger une défaite à l'Égypte. Faites-le savoir en Égypte et proclamez-le à Migdol, à Memphis et Daphné. Commandez, à vos rangs, préparez-vous. Déjà l'épée dévore autour de toi. Pourquoi donc, Apis, s'enfuit-il? Ton taureau si puissant n'a donc pas résisté? En effet, l'Éternel l'a bousculé. Versets 13 et 15. Cette invasion a eu lieu plus de 35 ans après la bataille de Carchemish. Les villes frontières du nord de l'Égypte seront les premières à subir l'attaque babylonienne. Apis, le dieu taureau qui symbolise la force, est terrassé. La défaite de l'Égypte entraîne celle de ses idoles. Je continue. Ils sont nombreux à trébucher et à tomber l'un sur l'autre, se disant mutuellement « Debout, retournons au pays, sur notre sol natal et chez les nôtres, et fuyons l'épée meurtrière. » Verset 16. Selon l'historien grec Hérodote, l'armée égyptienne comptait beaucoup de mercenaires. Battus, ils veulent retourner chez eux. On les comprend. Je continue plus loin. Une belle génisse, voilà ce qu'est l'Égypte. Mais descendant du nord, un temps est arrivé sur elle. Même les mercenaires qui sont au milieu d'elle et qui étaient traités comme des veaux que l'on met à l'engrais, eux aussi, ils font demi-tour et fuient en masse. Ils n'ont pas résisté, car le jour de la ruine les a atteints. C'est le temps de leur châtiment. Versets 20 et 21. Le pays d'Égypte était défendu par des mercenaires grecs qui avaient été invités par le père du pharaon Necho, mais qui depuis cela coulait douce au bord du Nil et n'était donc plus en mesure de se battre. Je continue plus loin. Le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, a dit « Je vais intervenir contre le dieu Amon de Thèbes, contre le Pharaon, contre l'Égypte, contre ses dieux et ses rois, contre le Pharaon et contre ceux qui se confient en lui. » Verset 25. Amon était la principale divinité de la Haute-Égypte. Les Grecs la comparaient à Jupiter. C'est à Thèbes, à 500 km au sud du Caire, qu'était le centre du culte d'Amon. Je finis le chapitre 46 en compressant. Par la suite, l'Égypte sera peuplée comme autrefois. L'Éternel le déclare. Et toi, Jacob, mon serviteur, sois donc sans crainte. Non, n'aie pas peur, ô Israël, car moi je vais te délivrer de la terre lointaine, toi et tes descendants du pays de l'exil. Cependant, je te châtirai selon ce qui est juste. Je ne te laisserai certainement pas impuni. Versets 26 à 28. Ici et là, le regard du prophète plonge jusque dans les temps messianiques où le salut s'étendra enfin à tous les peuples. Cette promesse aux descendants de Jacob a déjà été préalablement donnée. Nous arrivons au chapitre 47 que je commence à lire. Voici les paroles que l'Éternel adressa au prophète Jérémie au sujet des Philistins avant que le Pharaon inflige une défaite à Gaza. Verset 1. Les Israélites n'avaient aucun endroit où trouver refuge car l'une après l'autre, toutes les nations étaient envahies par Babylone ou l'Égypte qui se disputaient le gâteau. C'est maintenant le tour des Philistins. Je continue en compressant. Des eaux vont s'élever dans le pays du nord. Bientôt, elles seront un torrent qui déborde, submergeant le pays et tout ce qui s'y trouve. Car le jour est venu où tous les Philistins vont être exterminés, où l'on supprimera de Tyr et de Sidon tous les survivants qui pourraient venir à leur secours, parce que l'Éternel anéantit les Philistins. Oui, tous les survivants originaires de l'île de Crète. Versets 2 à 4. Les Philistins étaient originaires de Crète et s'étaient installés dans la bande de Gaza. À cette époque, ils étaient alliés aux Phéniciens dont les deux villes principales, Tyr et Sidon, se trouvaient au nord de la Palestine en bordure de la Méditerranée. Je finis ce chapitre. La population de Gaza se rasera la tête et Ascalon sera muette. Les restes des Anakim aussi. Jusque à quand vous ferez-vous des incisions ? Verset 5. Se raser la tête et s'inciser étaient des marques de deuil. La loi de Moïse interdisait toute mutilation, surtout que celle-ci était accompagnée des prières instantes des païens à leur divinité. Ascalon était une cité maritime fortifiée des Philistins. Les Anakim étaient de taille gigantesque et parmi les premiers habitants de Palestine. Ils furent entièrement exterminés ou presque par les Hébreux. Leur dernier refuge avait été Gath et Asdod, villes de la bande de Gaza. Mais les Philistins les en avaient chassés. Nous arrivons au chapitre 48 que je commence à lire. Prophétie concernant Moab. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Quel malheur pour Nebo, car elle est dévastée. Kiriataïm est dans la honte, car elle est prise. Recouverte de honte, la citadelle est terrifiée. Verset 1. Nebo est une ville située au pied du mont d'où Moïse a pu contempler le pays promis, mais dans lequel il ne lui a pas été permis d'entrer. Les Moabites s'étaient établis sur le plateau à l'est de la mer Morte, ce qui correspond à la Jordanie actuelle. Vaincus par David, puis soumis au royaume des 10 tribus du Nord, ils avaient recouvré leur indépendance et s'alliaient volontiers aux ennemis d'Israël. Jérémie s'inspire de prophéties antérieures, particulièrement celle d'Ésaïe, qu'il amplifie. L'historien juif Joseph écrit que 5 ans, mais c'est plutôt 6, après la chute de Jérusalem, Nabuchodonosor a soumis les Ammonites et les Moabites. C'est à ce moment-là que cette prophétie s'est accomplie. Jérémie cite aussi une flopée de villes dont je vous ferai grâce et qui, à cette époque, faisaient partie du royaume moabite. Elles sont insérées dans une description poétique mais sanguinaire de la destruction de Moab. Je continue plus loin. Tu as mis ta confiance, Moab, dans tes richesses, dans tes propres efforts. C'est pourquoi tu seras conquis. Le dieu Kemosh s'en ira en exil avec ses prêtres et ses princes. Verset 7. Kemosh était la principale divinité moabite. Les idoles païennes étaient souvent emportées en exil avec leurs adorateurs vaincus. Je continue plus loin. Moab, dès son jeune âge, vivait dans la quiétude et il s'est reposé comme un vin sur sa lie n'ayant jamais été versé d'un vase dans un autre. Il n'avait jamais pris le chemin de l'exil. Mais le temps va venir, l'Éternel le déclare, où je lui enverrai des tonneliers qui le transvaseront. Ils le videront. Ils videront ses cruches et briseront ses jarres. Alors Moab, honteux, rougira de Kemosh comme le peuple d'Israël a rougi de Bethel en qui il se confiait. Versets 11 à 13. L'image est appropriée parce que Moab était réputé pour ses vignobles. Jusqu'à ce que cette prophétie s'accomplisse, Moab jouissait de la paix et de la prospérité et n'avait jamais connu l'exil. Bethel était le sanctuaire principal du culte des veaux d'or institué par le roi d'Israël, Jéroboam. Je continue plus loin. La force de Moab a été abattue, sa puissance est brisée. L'Éternel le déclare. Enivrez-le, car il s'est fait plus grand que l'Éternel. Le voilà qui se vautre dans ses vomissements. À son tour, qu'il devienne un objet de risée. Versets 25 et 26. Dieu s'adresse aux envahisseurs babyloniens en leur ordonnant de faire boire aux Moabites le vin de sa colère. C'est une nouvelle allusion au vignoble de ce pays. Je continue plus loin en compressant. Nous avons entendu parler de l'orgueil de Moab. Il est orgueilleux à l'extrême et quel esprit de supériorité, quelle fierté, quelle arrogance, quel cœur altier. Voilà Moab exterminé, il cesse d'être un peuple car il s'est fait plus grand que l'Éternel. Versets 29 et 42. Après avoir été déportés par les Babyloniens, les Moabites ont perdu leur identité nationale et se sont fondus avec les Arabes. Je continue plus loin. À l'ombre de Heshbon s'arrêtent des fuyards parce qu'un feu est sorti de Heshbon. Une flamme a jailli du milieu de Sion et elle a consumé les tempes de Moab et le crâne des tapageurs. Verset 45. Heshbon, qui à l'époque de Jérémie appartenait aux Ammonites, était autrefois la capitale du roi amoréen Sion. Les Moabites y cherchent un refuge, mais en vain car les Babyloniens y sont déjà. Je finis le chapitre 48. Mais je ramènerai les captifs de Moab dans l'avenir, l'Éternel le déclare. Ici prend fin le jugement prononcé sur Moab. Verset 47. Malgré le châtiment qui a été prononcé sur Moab, cet oracle se termine sur une note positive comme pour l'Égypte. Le patriotisme de Jérémie ne ralentit pas l'élan de son cœur vers le salut universel des nations qui aura lieu à la fin des temps quand le Messie reviendra. Le chapitre 49 annonce le jugement des Ammonites. Avec les Moabites, ces deux peuples descendaient d'une relation incestueuse entre Lot, le neveu d'Abraham, et ses deux filles. À l'origine, le territoire des Ammonites était situé à l'est du Jourdain, au nord de Moab. Sa frontière nord était le Yabok, un affluent du Jourdain qui le séparait du royaume amoréen de Sihon. Au nord du Yabok se trouvait le royaume d'Og, roi de Bazan. Peu avant l'arrivée des Hébreux, qui venaient donc d'Égypte, les Ammonites avaient été repoussés à l'est par les Amoréens de Sihon, qui leur prirent donc leur territoire. Moïse, lui, n'a pas fait dans la dentelle. Il a fait la conquête des deux royaumes amoréens, de Sihon et de Bazan, ce qui incluait évidemment le territoire des Ammonites, et il a tout donné respectivement en partage aux tribus de Gad et de Manassé. À partir de ce moment, les Ammonites ont toujours regardé les Israélites comme des usurpateurs et donc d'un très mauvais œil, et n'ont jamais manqué une occasion de leur nuire et de s'agrandir à leurs dépens. Après la conquête des 10 tribus israélites du nord par l'Assyrie, par Tiglath-Pileser, c'était le nom du roi à l'époque, les Ammonites en profitèrent pour s'emparer du territoire de la tribu de Gad. Ces méli-mélos font penser à la situation de la Palestine actuelle. Je commence maintenant à lire le chapitre 49 de Jérémie, prophétie sur les Ammonites. Voici ce que déclare l'Éternel. Israël n'a-t-il plus de fils? N'a-t-il pas d'héritier? Alors pourquoi le roi des Ammonites a-t-il pris possession de Gad? Pourquoi les Ammonites se sont-ils installés dans les villes de Gad? Verset 1. Comme j'ai déjà dit, après la déportation par les Assyriens des tribus qui étaient à l'est du Jourdain, les Ammonites réoccupèrent le territoire de la tribu de Gad comme si Israël restait sans héritier. Leur conduite leur valut les menaces du prophète Sophonie. De plus, de concert avec les Moabites, les Ammonites s'allièrent aux Babyloniens pour attaquer Jéhoiakim, roi de Juda, et dévaster son pays. Je continue le texte. « C'est pourquoi le temps vient, l'Éternel le déclare, où je ferai entendre les cris de guerre contre Rabat des Ammonites. Elle sera changée en un site de ruines, et toutes ses bourgades seront livrées au feu. Israël spoliera ceux qui l'auront spolié, l'Éternel le déclare. Verset 2. Selon l'historien juif Joseph, Nabuchodonosor détruisit le royaume d'Ammon la 23e année de son règne, environ 6 ans après la prise de Jérusalem. Cependant, et comme précédemment, Jérémie termine son oracle contre les Ammonites sur une note positive qui est « Mais plus tard, cependant, moi, je ramènerai les captifs ammonites, l'Éternel le déclare. » Verset 6. Comme tous les prophètes, Jérémie voit au-delà de la misère du peuple élu et du désastre qui les attend ou qui les frappe. Le jour viendra où tout rentrera dans l'ordre. Le mal, la mort, la maladie, les drames en tout genre et leur cortège de souffrances qui les accompagnent seront abolis à tout jamais. Alors la félicité éternelle commencera réellement pour tous ceux qui auront placé leur confiance en l'Éternel sous le régime de l'Ancien Testament et en Jésus-Christ sous le régime du Nouveau.